IDFM Radio, 98 FM.
Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Jacqueline Voraz avec Nicolas, notre stagiaire à la technique. Bonjour Nicolas. Recherche académique et innovation, un lien stratégique. C'est l'économie en direct et aujourd'hui, vendredi 13 juin 2025, explorons ensemble à travers le bilan de la première année du PUI chez CY Transfer et ses grandes réalisations, comment accélérer le passage des résultats de la recherche publique vers des applications concrètes, en particulier via l'innovation et l'entrepreneuriat. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios d'IDFM Radio ce matin Olivier Romain, vice-président de CYU, Innovation et Transfert, Head of the PUI CY Transfer, Head of CY Transfer Office. Bonjour Olivier.
Bonjour Jacqueline.
Et à vos côtés, Olivier, Célia Agostini, directrice de CleanTech for France. Bonjour Célia.
Bonjour Jacqueline.
Bienvenue et merci à tous les deux pour cette rencontre inédite dans les studios d'IDFM Radio et d'être les invités en direct de l'économie en direct.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Olivier Romain, IDFM Radio, via son partenariat avec l'Université de Cergy, a le privilège depuis un peu plus de 2 ans de suivre avec CYU Transfer son éligibilité au PUI. Un dispositif soutenu par l'État dans le cadre de la stratégie nationale de valorisation de la recherche et dont l'objectif est d'accélérer le passage des résultats de la recherche publique vers des applications concrètes, en particulier via l'innovation et l'entrepreneuriat. Alors, pourriez-vous déjà nous rappeler les principales missions d'un PUI, Olivier ?
Tout à fait, merci Jacqueline. Donc un PUI, comme vous l'avez dit, c'est un programme en fait qui a été lancé par l'État dans le cadre de la loi de programmation de la recherche. Donc c'est un des piliers qui soutient en fait l'innovation. Et les deux objectifs des PUI, c'est d'accroître l'efficience des actions de soutien au transfert de technologies, et c'est aussi créer de plus en plus de start-up deep tech issues des laboratoires de recherche. Donc deux objectifs qui sont conférés à un consortium qui regroupe un chef de file, qui peut être une université, des membres fondateurs, dont l'ESAT, les sociétés d'accélération au transfert de technologies, sont membres fondateurs de droit. Et puis on peut avoir aussi des ONR, des établissements et tout un consortium de partenaires. Donc nous avons en fait construit une feuille de route pour répondre à ces deux objectifs, avec aussi une particularité au sein de notre PUI de mettre un accent fort sur tout ce qui est valorisation des sciences humaines et sociales,
oui.
Puisque l'État avait mis aussi pas mal de moyens sur des programmes exploratoires pour la recherche type PEPR et des programmes en fait en lien sur la prématuration et la maturation vers des stratégies nationales d'accélération. Et il manquait en fait certains fonds, certains programmes en fait de soutien sur les sciences humaines et sociales, et ce qu'on a mis en place depuis maintenant 2 ans. Donc c'est une petite identité qu'on creuse de plus en plus, et on est remarqué sur ce segment.
Très bien. Alors moi j'avais noté En tout cas, vous le décrivez très bien, parce que j'ai rencontré plusieurs personnes qui disaient « Oh là là, le PUI, c'est compliqué, on sait pas trop ce que c'est ». En fait, c'est vraiment créer un guichet unique pour simplifier l'accès à l'innovation académique, c'est ça ?
C'est exactement ça. En fait, ce qui a été demandé dans notre réponse à l'État, c'est de ne pas réinventer en fait une nouvelle structure, c'est surtout travailler sur des articulations et de capitaliser sur l'existant. Comme vous l'avez dit en introduction, je suis aussi le directeur d'un service en fait au sein de l'université qui fait le lien avec soit l'interne, nos structures de recherche, soit l'externe, les partenaires socio-économiques. Et l'objectif en fait c'était renforcer ce service-là et s'articuler au mieux avec des partenaires du territoire et nos structures internes.
Vous arrivez, je crois, à fédérer donc ces partenaires, hein, qu'ils soient entreprises, incubateurs, collectivités, structures de financement.
Exactement, et là on est très fiers puisqu'on vient de signer il y a une semaine dans le cadre de la MIF 2025 un partenariat avec Orange, donc un gros industriel qui est reconnu hein, pour tout ce qui est aussi accompagnement à l'entrepreneuriat. Et Orange va nous aider en fait en dispensant des programmes dédiés à des étudiants et des chercheurs et des porteurs de projets pour renforcer en fait leur projet de start-up. Et effectivement, si on fait un petit bilan quantitatif, aujourd'hui on est à plus de 60 partenaires dans le PUI, que ce soit des associations pour le développement économique type CEVO, MEDEF, CPME, CCI, mais aussi des pôles de compétitivité, des incubateurs publics, mais aussi des partenaires de structures privées, comme des parcs d'activité, des petites PME, des TPE et des grands industriels.
Alors, je me souviens que la dernière fois que vous êtes venu, vous aviez insisté sur le fait d'avoir le même langage, parce que le monde académique et le monde d'entreprise, quelquefois, se côtoient parallèlement, mais sans avoir le même langage. Et vous voulez vraiment arriver à ce résultat?
Alors, c'était en fait un enjeu. C'est toujours un enjeu, mais on commence à avoir des résultats qui sont marquants maintenant sur le territoire. Et ça, c'est vraiment, si on prend une image, celui du bâton de pèlerin, en fait. Et pour traduire le bâton de pèlerin, on a mis de plus en plus en place de l'animation territoriale. Vous y contribuez, bien évidemment, Jacqueline. Mais on travaille sur de la multimodalité. On a mis en place des cafés PUI qui sont mensuels, qui permettent de répondre en fait aux questions de nos partenaires, mais en même temps de faire une actualité. On fait des actions sur le terrain chez nos partenaires maintenant. Donc par exemple au parc de Saint-Ouen, on a des actions en fait de rencontre des partenaires. On fait la même chose au sein du MEDEF, au sein de la CPME, et ça commence à marcher parce que les gens en fait entendent de plus en plus le PUI, ce que c'est, et sont eux-mêmes maintenant des relais. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on voit que ces partenaires parlent pour nous maintenant de ce PUI et s'approprient en fait le PUI comme étant leur PUI.
Et vos chercheurs le vivent bien, parce qu'en fait ils étaient un peu dans une sorte de monde à eux, mais ils vivent bien d'aller comme ça, d'avoir plus de visibilité.
Ah oui, complètement. Et puis ils sont en demande aussi, parce que un chercheur, bien évidemment, il fait de la recherche, mais s'il voit que sa recherche peut servir à la société dans certains domaines, ils sont tout à fait preneurs de ça.
Très bien. Alors l'enjeu, on a compris, hein, c'est de favoriser l'impact sociétal. Je crois que vous, dans le PUI, il est possible de déposer des brevets, des licences, des contrats de collaboration. Un mot sur cet aspect.
Oui, complètement. Donc, ça fait partie en fait hein, des programmes du PUI. Alors, généralement, le PUI se situe juste après en fait un programme de recherche qui a été financé sur un guichet type Agence nationale de la recherche, ou un programme de développement avec la région ou avec la BPI ou d'autres guichets. Donc, nous, le PUI se situe après, c'est-à-dire qu'on a des premiers résultats de la recherche qui sont assez fondamentales, où on n'a pas spécialement en fait d'application, et on va travailler avec le chercheur et on va travailler avec les partenaires pour trouver peut-être une suite, mais plus de développement et moins de recherche avant un transfert. Et c'est dans cette phase en fait où on accompagne le chercheur, bah, généralement en fait on va commencer à voir s'il y a une protection possible des résultats de la recherche. Un des enjeux vis-à-vis de nos collègues chercheurs, c'est de ne pas publier avant de déposer un brevet, pour qu'il y ait une non-divulgation en fait des résultats. Voilà.
C'est ça. Hein, vous devenez avec les PUI, les universités deviennent des vrais catalyseurs territoriaux d'innovation.
Exactement. Et on veut ensuite avoir suffisamment de portfolios, suffisamment en fait de brevets pour pouvoir aussi accompagner les transférer au mieux à nos industriels.
Olivier Romain, avant de faire le bilan de la première année, je voudrais, j'aime bien vous faire rencontrer d'autres acteurs de la du territoire. Avec nous, Célia Agostini, donc présidente de Cleantech for France. Comment voyez-vous un partenariat possible avec avec Célia?
Alors plein. Plein de partenariats. C'est une chance de vous rencontrer ce matin, Célia. Alors, l'université s'est renforcée sur des dimensions en fait de transition avec un programme PIA4 Excellence il y a maintenant 3 ans de cela, qui s'appelle CY Génération. Et dans les membres partenaires en fait de CY Génération, on a notamment le CRMA que Célia connaît très bien. On travaille sur toutes les formes de transition. L'objectif, c'est que ça soit de la transition de type numérique, mais c'est aussi de la transition à but écologique. Ça peut être aussi sur des aspects de silver economy, de réemploi, réutilisation en fait de matériaux, ou de décarbonation aussi de la planète. Donc, on s'inscrit bien évidemment, comme d'autres universités, dans une logique des ODD. On va pas couvrir tout le champ des ODD parce que typiquement à Cergy Paris Université, on n'a pas spécialement de faculté de médecine aujourd'hui, donc on est moins visible sur le champ de la médecine, mais ça fait partie d'un objectif du prochain contrat du président de développer cette fac de médecine avec des laboratoires d'appui, donc on pourra aussi couvrir ce champ des ODD.
Célia Agostini, un mot à ce que vient de dire Olivier Romain?
Oui, tout à fait en ligne sur le fait qu'il y a plusieurs partenariats qui sont possibles, d'autant qu'on a eu la chance d'avoir en France une recherche qui est excellente et que tout l'enjeu, c'est maintenant son application concrète pour nous permettre d'être les plus innovants et donc les plus compétitifs et de bâtir un modèle qui va nous permettre d'être en concurrence avec les plus grands champions mondiaux. Et c'est essentiel d'avoir ce type, je pense, de programme, parce qu'on a souvent eu, on va dire, des éloignements, si je peux le dire ainsi, entre le monde de la recherche et le monde du business. Et aujourd'hui, en travaillant ensemble, je pense qu'on peut avoir de nombreuses opportunités, surtout dans un monde qui est en complète mutation, dans une course technologique. Et donc, il faut qu'on mette tous les moyens et qu'on se rassemble pour trouver les meilleures solutions.
Donc vous voyez aussi une opportunité à rencontrer Olivier et peut-être créer des liens plus forts avec entre l'université et puis Cleantech for France.
Totalement, d'autant que Olivier a cité quelques exemples concrets sur le réemploi et des entreprises qu'on pouvait mettre en relation. Nous, dans notre coalition de membres, je rappelle, on réunit les nouveaux champions industriels sur les secteurs des batteries électriques, des énergies renouvelables, sur le ciment décarboné, sur l'acier décarboné, et également les plus grands fonds d'investissement à impact français. Et ensemble, on défend la réindustrialisation verte. Et donc, on a vraiment besoin d'avoir ce monde de la recherche qui vient appuyer ces technologies qui sont en train d'être mises en place, et surtout concrètement dans les territoires, parce que c'est des ouvertures d'usines, et donc c'est des ouvertures d'usines, c'est des créations d'emplois, c'est des nouvelles dynamiques territoriales, aussi bien économiques et sociales. Et je pense notamment dans l'exemple que vous avez donné, Olivier, à Néolithe, qui est un de nos membres, qui est une pépite cleantech française, et qui fait du traitement de déchets, c'est-à-dire que au lieu que les déchets qui sont non recyclables et non dangereux, c'est des déchets qui ont vocation à être enfouis et incinérés, eh bien eux, ils ont mis au point un processus technologique qui permet de les fossiliser, c'est-à-dire de les transformer en petits granulats de pierre qui sont ensuite réemployés dans le secteur du bâtiment notamment.
Oui, là, c'est un exemple concret. Merci beaucoup, Célia. Célia et Romain, je propose qu'on fasse une courte pause et on parle du bilan, je crois, plus que positif du PUI. À tout de suite.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
C'est l'économie en direct et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Romain, vice-président de CY Transfer et Célia Agostini, présidente, directrice de Cleantech for France. Alors, Olivier Romain, ce bilan sur le PUI.
Merci Jacqueline, rebonjour. Donc, le bilan sur le PUI est extrêmement positif. C'est pas de la fierté mal placée. On est évalué constamment par nos financeurs et on en est aujourd'hui à une troisième évaluation et la dernière évaluation de 2024 a été très élogieuse vis-à-vis de notre PUI et ce qui nous a permis aussi d'avoir des financements complémentaires de l'État. Alors, peut-être donner le calendrier pour nos auditeurs
du
PUI. Donc, le PUI, cet appel à projet, a été lancé en 2022. Nous avons eu toute l'année 2023 pour construire avec nos partenaires une feuille de route et répondre aux attentes de l'État. Trois évaluations en janvier 2023, juin 2023 et octobre 2023 qui nous ont permis en fait d'être labellisés officiellement et d'avoir en fait un T0 du PUI, c'est-à-dire un début du PUI officiel de ce programme sur 4 ans, en mars 2024. Alors on n'a pas attendu le T0 pour pouvoir décliner notre feuille de route, on avait anticipé ce T0. Donc 2024 pour nous, en fait, c'est un lancement officiel au 1er janvier 2024. Et il me semble que Jacqueline, vous étiez présente à nos côtés lorsqu'on a fait le kick-off meeting, comme on dit. Donc janvier 2024, on a travaillé avec nos partenaires et fondateurs pour la déclinaison en fait de la feuille de route, puisque la feuille de route est un document de cadrage qui donne les orientations stratégiques du PUI. Je les rappelle très rapidement pour nos auditeurs. Donc on a 9 actions prioritaires qui sont sur 4 cibles. 2 cibles internes qui sont des étudiants et des personnels de la recherche et 2 cibles externes qui sont des industriels et des start-upers. On a développé notre feuille de route sur 4 verticaux, un axe qui est l'animation territoriale pour développer, et IDFM Radio est là pour nous aider.
C'est adorable.
Sur tout ce qui est animation territoriale avec l'idée de cultiver un sentiment d'innovation sur notre territoire et surtout d'acculturer le territoire à l'innovation. Il y a encore un enjeu, par exemple, sur des très petites entreprises où elles n'ont pas en fait le réflexe, par exemple, de se tourner vers l'université ou d'autres structures pour se développer ou se réinventer. On a un enjeu aussi de formation à l'innovation, que ce soit pour nos étudiants, personnel de recherche, mais aussi à l'extérieur, pour donner en fait, par exemple, des réflexes. Lorsqu'on engage une réflexion avec un industriel, tout de suite déclencher un NDA pour pouvoir instaurer une relation de confiance. On a aussi un enjeu, comme je le disais précédemment, de développer la valorisation des sciences humaines et sociales. Donc ça, c'est un enjeu national. C'est-à-dire que ce qu'on sait faire aujourd'hui sur les sciences fondamentales et expérimentales, on a du mal à le faire sur les sciences humaines et sociales, puisqu'en fait, l'objet n'est pas spécialement technologique sur ces sciences humaines et sociales. On a développé aussi tout un axe sur tout ce qui était détection ou plutôt, puisqu'on peut construire en fait toutes les chaînes d'accompagnement les plus efficientes possibles. Si on n'arrive pas à détecter une opportunité, je pense que Célia, c'est pareil pour vous, on ne saura pas accompagner au mieux un porteur de projet, donc c'est un enjeu considérable. Et ensuite, on a aussi un dernier enjeu, et là je reprends la balle au bond vis-à-vis des questions vis-à-vis de Célia, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment accompagner, on va dire, l'aspect un peu business au plus tôt des programmes de recherche. Et cette traduction se fait en fait aujourd'hui par casser des chaînes qui sont séquentielles de valorisation en France, c'est-à-dire qu'on va attendre la fin d'un programme pour enclencher un autre programme, etc., avec des nouveaux partenaires. Et ça, c'est plus possible en fait parce que typiquement on parlait des clean tech, ça va très très vite, les head tech ça va très très vite, aujourd'hui en fait tout ce qui est X tech ça va très vite et il faut que on articule nos partenaires, nos porteurs en fait de programmes au plus tôt pour pouvoir justement se dire bah oui mais si on veut aller vers une création de start-up, il faut que je mette en place, par exemple, Célia avec le Start-up Studio qu'on a à l'ESSEC, avec d'autres partenaires, de telle manière à travailler en fait en parallèle. peut-être notre ambition à terme, et ça permettra aussi de faire rebondir Célia, c'est on veut avoir un modèle de venture builder. Donc un modèle de venture builder, c'est de travailler sur toutes les dimensions d'un programme, de la tech jusqu'à, on va dire, un positionnement au marché avec un transfert de plus en plus efficient. Alors, notre vocation, c'est pas être un venture builder privé. Là, on travaille sur une copie type venture builder public, mais pourquoi pas à terme.
C'est un schéma que vous voulez appliquer, mais à votre niveau, quoi.
On s'interdit pas, en fait, d'être une filiale, et pourquoi pas d'être une filiale avec d'autres actionnaires, et pourquoi pas d'être une venture builder. Si on revient maintenant sur des aspects un peu plus quantitatifs du PUI, vous m'avez demandé un bilan, Jacqueline. Donc 2024, ça a été en fait la déclinaison, première déclinaison opérationnelle. On a agrégé en fait nos partenaires et on a commencé à mettre en place différents comités. Par exemple, on a aujourd'hui contractualisé avec 38 partenaires. Donc ça, ça a été un enjeu considérable. Sur les 60 partenaires, 38 conventions de partenariat, on en a une avec vous.
Bravo,
on en a aussi avec, par exemple, Réseau Entreprendre et Initiative 78-95, avec la mise en place aussi de comités conjoints. Ça, c'est aussi une petite fierté, puisque ces Réseau Entreprendre et Initiative nous présentent aussi des projets, et en même temps, on peut faire du ressourcement technologique sur ces porteurs de projets. Et à l'inverse, on invite Initiative Réseau Entreprendre à voir ou plutôt nos programmes, de nos projets qui sont portés par des chercheurs, pour qu'ils soient accompagnés par la suite. Donc ça, c'est
ça crée une vraie dynamique entre chaque partenaire, quoi.
Complètement. Autre objectif qu'on a fait, c'est opérationnaliser nos partenariats. Donc ce qu'on fait aussi, par exemple, CPME, MEDEF, le Parc, où on a développé des outils numériques dans le cadre du PUI, et aujourd'hui, en fait, ces outils sont repris par ces partenaires. Donc, on a du relais d'information mutuelle, donc ça, c'est très bien, puisque chaque partenaire garde, en fait, ses adhérents et est un peu le porte-parole auprès de ses adhérents de ce qu'est le PUI. On a créé une start-up, voilà, la première start-up du PUI qui a été aussi mise en visibilité au pavillon de l'Élysée, c'était en fin 2023, voilà, sur une technologie issue d'un laboratoire en lien avec la robotique.
Le nom de cette start-up ?
Cobot One.
Ah oui, d'accord.
Cobot One. D'autres exemples, sur de l'animation, on a fait les Assises de l'innovation, donc un événement majeur dans le cadre du PUI, qu'on reconduit cette année le 27 novembre au Centre des Arts d'Anguin.
Oui, je crois que c'était...
Vous êtes invité à nous rejoindre sur ces Assises de l'innovation.
C'était un vrai succès,
Un vrai succès, Jacqueline. On peut peut-être redire les chiffres, à peu près 170 inscrits, à peu près 140 personnes en présentiel, avec un petit changement cette année. Les Assises de l'innovation seront dédiées à la valorisation des sciences humaines et sociales.
D'accord.
Donc, entièrement thématisées.
Avec Christelle Ventura, bien sûr.
Bien sûr, avec ma Christelle Ventura, et avec une session spéciale avec 6 autres PUI. Qui font partie de l'association L'Initiative, dans lequel nous faisons partie, Cergy Paris Université. C'est une association qui regroupe en fait les 6 sites en France qui portent aussi un PUI. Et on aura en fait une petite session où on pourra, chacun des PUI, présenter un outil, un programme, un objet qui est vraiment efficient, et ça pourra aussi être source d'inspiration pour les autres PUI. Qu'est-ce qu'on a mis en place? De l'animation, le renforcement de l'animation, un programme de prématuration SHS.
Ah oui.
Voilà.
Oui,
donc ça, c'est fait. Trois programmes ont été lauréats. On est en train de les accompagner. On vient de lancer le deuxième appel qui s'est clôturé récemment, et on a aussi pas mal de projets qui, en sciences humaines et sociales, qui sont remontés. On est dans un processus de sélection actuellement. Voilà, ça fait pas mal.
Ça fait pas mal, oui. Et je me disais, en vous écoutant, Olivier, que je me souviens que vous avez beaucoup travaillé pour être éligible à ce PUI. Quelque part, bon, on sait que vous êtes constamment en contrôle quelque part pour voir où vous en êtes. C'est ce que vous venez de nous dire. Mais vous devez vous sentir quand même, vous disiez c'est pas de la fierté, mais si, je pense que vous pouvez être très fier de ces résultats.
Alors là où on est content,
la fierté
en fait,
mal placée, moi je trouve qu'au contraire vous pouvez être très fier.
Là où on est très content en fait, c'est lorsque on a par exemple des BPI, lorsqu'on a l'État qui s'intéresse en fait à nos actions et qui nous demande en fait de voir comment elle pourrait nous accompagner par la suite. Donc là on est content. On est aussi content lorsqu'on peut partager aussi nos outils par exemple à d'autres PUI. Parmi les réalisations qu'on a mis en place, on a mis pas mal d'outils digitaux, par exemple Connecti. Voilà, oui. notre application du mythique de l'innovation est aujourd'hui en fait opérationnelle et on souhaite que tous nos partenaires puissent l'utiliser puisque c'est gratuit pour favoriser en fait le lien entre public et privé. Des portails de l'innovation et puis des outils type un peu couteau suisse pour accompagner en fait les programmes qu'on fait avec les industriels.
Célia, ça vous donne envie de rejoindre le PUI de CY?
Ouais, complètement, d'autant que j'y vois vraiment trois grands axes très intéressants. Le premier, c'est la manière dont vous associez les étudiants. Et moi, je fais le lien avec le monde industriel dans lequel j'évolue. On a besoin de nouvelles vocations dans l'industrie. On manque cruellement de compétences.
C'est ce que vous disiez, oui, la dernière fois.
Complètement.
Ouais.
Et ça, je pense qu'on est en train de mettre des politiques d'innovation à l'image de ce qui est en train de se passer au niveau de Cergy Pontoise et de comment on aide les entreprises à faire des démonstrateurs, des pilotes. On est en train de financer des nouvelles usines. Bien sûr, il y aura beaucoup de choses à améliorer, oui. Mais ça, je pourrais en parler après. Mais on manque cruellement de compétences, parce que le drame de la désindustrialisation, c'est pas seulement des usines qui ont fermé, c'est des compétences qui se sont éteintes
ailleurs,
complètement.
Oui.
Et donc, je pense qu'on a vraiment besoin de susciter des nouvelles vocations, et notamment chez les plus jeunes, sur des secteurs qui ont parfois, pendant trop longtemps, été dévalorisés, et leur dire que, en fait, l'industrie aujourd'hui, c'est plus du tout, c'est pas l'image qu'on en avait avant, c'est des nouvelles technologies, c'est des solutions aussi aux grands défis dont nous avons que nous avons à relever, notamment la transition écologique, et qui peuvent pleinement y contribuer et de manière utile et surtout, je pense, très intéressante et qui peuvent leur permettre d'avoir des carrières longues dans ces structures et surtout bien rémunérées.
C'est ça, oui, c'est le but, parce que dire que en France on peut aussi réussir dans ces domaines, quoi.
Complètement. Et donc ça, je pense que c'est déjà un très bon point. Et le second point, c'est aussi la manière dont vous intégrez déjà dans votre réflexion et dans le travail que vous menez le sujet du débouché sur les marchés, qui a toujours été un petit peu, je pense, dans l'angle mort de certaines approches sur la recherche qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire qu'on mettait au point des nouvelles technologies, on faisait des programmes de recherche, et on oubliait parfois la manière dont ça allait arriver sur le marché, est-ce que ça allait trouver son marché, des clients.
Son exploitation.
Exactement. Ouais, ouais. Et je pense que c'est vraiment intéressant d'intégrer ça dès maintenant, dès la recherche, parce que parce que déjà on met de l'argent pour financer de la recherche, donc c'est que derrière il faut que ça serve à quelque chose, et ça pose le grand défi auquel la France et même plus largement l'Europe est confrontée aujourd'hui, c'est sur le déploiement de ces nouvelles technologies, parce que on est un continent qui est extrêmement innovant. On n'a pas à rougir face à ce que font les Américains et ce que font les Chinois. Là, en revanche, où les Américains et les Chinois sont quand même bien plus efficaces que nous, c'est sur la manière de déployer leur recherche dans leur marché. Donc, ils utilisent tout un tas d'outils réglementaires pour réserver des marchés à leurs acteurs, ou financer aussi la consommation sur ces nouveaux, sur ces nouvelles technologies pour leur permettre d'émerger sur le marché, ou tout un tas de subventions ou d'aides à la production. Nous, sur ça, au niveau français, en Europe, je pense que c'est vraiment sur là qu'on doit mettre beaucoup d'efforts.
Mais c'est peut-être justement l'occasion de développer cet aspect-là.
Parce que je prends l'exemple de la Chine. La force de la Chine, c'est d'avoir aligné sa recherche avec son monde industriel, et ensuite ils arrivent à aligner ce que sort l'industrie avec, on va dire, la demande, c'est-à-dire leur consommation, leur consommateur à eux, mais surtout les besoins du monde et des autres pays. Et nous, je pense qu'on a vraiment besoin d'aller vers ça, une meilleure adéquation, parce que même pour l'enjeu des nouvelles technologies, je prends l'exemple, alors les clean tech, c'est le cas aussi, mais on parle beaucoup d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on est déjà tous en train d'utiliser des IA, et des IA qui sont pas forcément européennes et françaises, oui, en majeure partie.
Absolument.
Et donc, plus on utilise des IA étrangères, plus on aide les IA étrangères à se développer, oui, et plus on les aide à prendre le contrôle
nourrit
du marché.
Ouais,
exactement.
Ouais, ouais.
Et donc, moins on s'aide avec nos propres technologies. Donc, ce vrai enjeu du déploiement, il faut qu'on y arrive, et surtout sur nos propres technologies, parce que c'est des sujets de souveraineté, tout simplement. Et le troisième axe que j'ai trouvé très intéressant dans ce que vous avez dit, Olivier, c'est le sujet de l'animation territoriale, tout simplement parce que je pense qu'il faut faire rentrer ces nouvelles technologies, ces recherches de pointe dans les territoires. C'est pas qu'un sujet parisien, c'est pas vrai. Et ça, je trouve vraiment vraiment très positif que vous le fassiez vivre avec autant d'énergie et d'engagement dans le Val d'Oise. Et enfin, ça me fait penser à un bâtiment qui a été inauguré, à quelle inauguration à laquelle j'ai assisté il y a quelques jours. C'est le bâtiment 78 du côté de Rennes, où en fait on a réhabilité une ancienne friche industrielle de Stellantis qui a été transformée en pépinière massive, notamment sur les clean tech. Et donc ça montre aussi toute la volonté des territoires aussi de s'emparer de ces nouvelles technologies et de les faire descendre au plus près des citoyens et de, encore une fois, susciter des nouvelles vocations et de créer des nouveaux écosystèmes plus dynamiques dans les territoires. Donc ça, j'ai trouvé ça très positif.
Merci infiniment, Célia. Merci de conforter cette idée que Clean Tech for France et puis CY Transfer peut un jour être partenaire. Je n'en doute pas. Olivier, je vous propose qu'on marque une pause et puis juste après on reprend. Vous avez un programme là qui s'appelle Startez, et si vous pouvez nous en dire quelques mots dans quelques minutes. À tout de suite.
Allongé sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie. Expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Je te sens au loin, chasser mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché, je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sous ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais dans un miroir sans teint, d'où je te regarde t'en sortir à merveille. Épier ton bonheur me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est l'économie en direct. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Olivier Romain, vice-président de CYU, Innovation et Transfert, Head of PUI CY Transfer, Head of CY Transfer Office, et Célia Agostini, directrice de CleanTech for France. Ça vous fait quoi, Olivier, d'entendre les propos de Célia, comme on la sent complètement investie dans votre recherche de pays?
Alors, j'abonde complètement, en fait, dans ce qu'a dit Célia, et je pense qu'en France, il faut qu'on pousse le train encore plus loin. C'est-à-dire que sur les trois volets que vous avez dit, on est encore une forme de retard par rapport, en fait, à d'autres nations. Si on prend le parallèle, par exemple, par rapport à Israël, ou par exemple d'autres pays où ils mettent un accent très particulier sur l'innovation, on voit en fait que les questions de sensibilisation à l'innovation sont, même sur les transitions, au plus tôt chez nos jeunes. Et aujourd'hui, je pense que c'est un manque encore dans certaines formations, par exemple au niveau école primaire ou même au collège et lycée. Si on regarde par exemple en Israël, la question en fait de l'innovation et de créer ces start-up, elle se fait au lycée déjà. C'est-à-dire qu'ils ont des programmes en fait qui permettent à des jeunes qui passent le bac d'avoir déjà une idée d'une start-up, où ils ont même créé une start-up qui continue à développer par la suite. Donc en France, je pense qu'on a intérêt à pousser le curseur.
Démarrer le plus tôt possible.
Parce que, en fait, on va se dire les choses, les plus belles réussites aujourd'hui, les plus belles licornes, ça vient des jeunes, souvent. Si on prend, par exemple, en Israël, si on prend Waze, c'est un projet d'étudiants à la base, Waze. Et on voit, nous, que, par exemple, dans des programmes pépites, on a des beaux projets. Mais on pourrait aussi voir ce qui se passe au niveau collège. Nos collégiens, ils ont des fois des très très belles idées qu'il faut accompagner et qui peuvent donner par la suite en fait des licornes.
Complètement,
oui. Ça, c'était un premier retour. Après, sur le deuxième axe que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense qu'il faut aussi qu'on continue à pousser le curseur. C'est-à-dire qu'il y a eu un effort considérable, en fait, par le gouvernement pour aller sur des programmes de recherche exploratoires, sur des stratégies nationales d'accélération. Il faut absolument que ça continue dans l'avenir. C'est-à-dire que la loi de programmation de la recherche doit pas diminuer, en fait, doit pas réduire la voilure, en fait. Et on doit justement l'accentuer. On doit mettre encore plus de moyens sur la recherche qui pourront être traduites par des innovations qui pourraient être transférées vers la société, mais peut-être aussi en mettant plus l'industriel en appui dès le départ, en fait, à ces programmes de recherche pour trouver, en fait, ou plutôt un domaine d'application. Je pense que ça, c'est important. Je fais pas assez encore aujourd'hui.
Oui, encore une vraie synergie entre l'un et l'autre.
Hein, oui, ça veut pas dire qu'il faut transformer la recherche en une recherche application, recherche industrielle, mais en tout cas, peut-être avoir des orientations qui peuvent aussi aider ou guider le chercheur sur, par exemple, un test, un POC ou un résultat expérimental. Et enfin, sur l'aspect animation territoriale, oui, je pense que vous avez raison et j'en ai pas parlé avant. On a en fait une action qu'on a mise en place il y a à peu près 6 ans maintenant qui s'appelle les Tech Days au niveau du territoire de Cergy-Pontoise avec la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, le CZ95, justement pour travailler sur ces filières, typiquement en fait pour avoir des rencontres où on confronte la vision filière industrielle vis-à-vis en fait d'une recherche plus fondamentale sur une thématique, typiquement l'IA. Ça peut être aussi démystifier l'IA, parce que vous avez parlé d'IA, mais tout le monde parle de l'IA, mais ça fait plus de 80 ans qu'on travaille en fait sur de l'IA, donc
sans le savoir.
Donc l'IA, c'est déjà utilisé et effectivement, il faut qu'on travaille plus sur la souveraineté en fait de l'IA et surtout aussi sur un aspect que personne parle, c'est la transparence de l'IA. Parce que ces modèles, en fait, qui donnent des orientations, quelque part, il faut qu'on soit en capacité de comprendre comment ces prises de décision ont été faites en vue, en fait, d'aspects un peu plus juridiques. Je prends un exemple, si on va vraiment sur de la médecine du futur ou que c'est entièrement l'IA qui va guider les choix, il faut pas qu'elle se rate.
Bien sûr, évidemment. Non, vous avez raison.
Alors, Ce qu'on a fait dans le PUI, c'est aujourd'hui, on a mis en place une action, on fait venir les industriels dans les laboratoires pour qu'ils voient au plus près, en fait, ce que font les chercheurs, par exemple, dans les clean tech, sur des aspects de batterie, sur des aspects, en fait, de membrane pour l'hydrogène, sur des aspects de fonctionnalisation de matériaux pour renforcer l'efficacité, par exemple, bâtimentaire. Ça, c'est des choses qu'on met en place, mais bien évidemment, on est tout à fait ouvert à de nouvelles propositions thématiques et de travailler aussi avec vous, Célia, pour faire ces rencontres avec nos laboratoires.
Ce que je voudrais juste ajouter, Romain, en vous écoutant, vous parliez tout à l'heure des petites entreprises. Hein, je fais un petit retour. Leur dire que, au fond, vous offrez un vrai service de recherche et développement avec des chercheurs, voilà, de premier niveau, et qu'une entreprise, une petite entreprise, ne pourrait pas s'offrir. Alors que là, vous apportez sur un plateau ce service.
C'est complètement ça. C'est-à-dire que si on prend les chiffres du PUI avec Sorbonne Paris Nord et le CEREMA, c'est quand même 80 laboratoires de recherche, une trentaine de plateformes technologiques, à peu près un vivier de 5000 enseignants-chercheurs cumulés sur toutes les thématiques. Et on est là aussi pour aider les toutes petites entreprises. Et c'est vraiment l'objectif du PUI, c'est-à-dire que forcer le pas de ces petites entreprises à venir nous rencontrer.
Oui, parce que elles peuvent, ça peut pour elles être la chance d'une croissance, c'est-à-dire vous allez pouvoir réfléchir à ce que cette entreprise peut, dans quoi elle peut innover, et là ça peut être vraiment ça peut devenir une licorne quelque part.
Je vous donne un exemple. Ouais. On a travaillé avec une société, je la nommerai pas en fait, qui a une activité très reconnue sur tout ce qui est des enfumages, voilà, tout ce qui est équipement des enfumages. Donc ce sont en fait des équipements qui sont un peu, excusez-moi du terme, un peu vieillissants, parce que en fait...
Très traditionnels, en tout cas.
Ils utilisent une technologie en fait qui a été éprouvée depuis des années, et en même temps on s'était dit avec le porteur, le chef d'entreprise, qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ces ouvrants, parce que ces ouvrants sont en nombre, par exemple, sur des bâtiments, et on a travaillé en fait à un nouveau service. Donc on a intégré de l'intelligence dans ces ouvrants de telle manière à pouvoir travailler sur ce qu'on appelle des serveurs de calcul souverains. Voilà. Donc ça, c'est un service. Donc vous voyez, cette entreprise qui est dans le domaine de l'incendie, en définitive, on est en train de lui rapporter en fait un relais d'innovation sur un volet plus technologique numérique qui permettra à terme en fait d'apporter un service complémentaire.
Et donc ça va demander à peu près concrètement combien de temps pour arriver à mettre au point ce sur quoi vous avez mis l'accent.
C'est toujours une question de moyens. On parlait de la Chine est une force de frappe qu'on n'a pas spécialement en France. Et là, avec cet industriel, on a déjà un premier démonstrateur de laboratoire. Et à terme, d'ici un an, on espère avoir un premier prototype pré-industriel. Les académiques, on ne fera pas de produit industriel. Charge à l'industriel d'industrialiser.
C'est passionnant. Merci Olivier Romain. On marque une nouvelle pause et on va peut-être parler de Starthèse dans quelques instants. À tout de suite.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
C'est toujours l'économie en direct avec ce matin une spéciale CY transfert et avec à mes côtés Olivier Romain et Célia Agostini. Alors, je sais pas si on va arriver à parler de la session Starthèse, mais je crois que Célia voulait rebondir également sur les derniers propos d'Olivier Romain. Célia.
Oui, complètement. Je pense que Olivier, il fait la démonstration de tous les efforts et de toute l'énergie qu'on met pour développer une recherche de haut niveau en France et dans les territoires. Et au moment, en plus, on est en plein salon Vivatech, donc ça montre que c'est quand même un salon international et ça montre aussi tout, on va dire, la puissance technologique française qui essaye de rentrer dans le monde du business. Et tout l'enjeu, justement, c'est maintenant qu'on met énormément d'efforts sur ces sujets, c'est comment on garde nos technologies. Et ça, c'est une des axes prioritaires de Clean Tech for France, c'est vraiment ce passage à l'échelle. on est très fort pour faire toute la partie démarrage, recherche, et au moment où on doit déployer massivement, c'est là où on perd souvent.
On pêche un peu.
Voilà,
ouais.
Exactement. Nos acteurs. Et nous, ce qu'on défend sur ça, alors il y a eu beaucoup, il commence à avoir pas mal d'efforts au niveau de européen, qui a notamment dévoilé une stratégie de ce qu'on appelle le scale-up, c'est-à-dire le passage à l'échelle
de
toutes nos startups industrielles. Exactement.
Oui. Alors, avant la licorne.
Ouais, exactement. Alors licorne, après c'est des sujets de valorisation. Alors c'est encore un peu différent, mais ça montre voilà qu'on est en train de s'emparer de ces sujets en Europe. Je pense qu'il faut aller très vite, parce que on a des concurrents qui sont partis très très fort et vite également,
qui
sont déjà dans des phases industrielles, alors que nous on est dans des phases entre la start-up et l'industrie. Il faut vraiment qu'on arrive à passer ce cap-là, parce que c'est ça qui va faire qu'on va avoir des technologies souveraines capables de rivaliser avec nos concurrents mondiaux, que ce soit dans des technologies traditionnelles. On parle d'acier, ben maintenant on peut faire de l'acier décarboné. On parle de ciment, on peut faire du ciment décarboné. Mmh. Et les batteries électriques, vous avez mentionné, Olivier, aussi, déjà sur une concurrence féroce dans le monde, où on a déjà le marché qui est détenu à près de 80% par la Chine.
Donc
c'est vraiment comment on fait rentrer des acteurs français et européens dans un marché ultra concurrentiel.
La concurrencer justement ses forces. Oui.
Et donc ça, c'est vraiment des sujets à la fois de comment on protège notre marché, c'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à se faire, submergé par des produits étrangers sur ces sujets-là. Comment on protège nos acteurs le temps qu'ils fassent ce qu'on appelle leur montée en charge industrielle, le ramp-up, qu'on dit dans le jargon, qui permet justement de la phase de production qui démarre à arriver à un point de concurrence et être compétitif face aux autres acteurs. Et également comment on permet, on les aide en fait à financer cette phase aussi de production, parce que nous en Europe et en France, on sait très bien financer la recherche, on sait financer la partie, on va dire, financement de l'usine, ouverture de l'usine, mais par contre lorsqu'il s'agit de faire ce qu'on appelle
commercialement,
à la production, là on est très faible, là, et alors que les autres acteurs, aussi bien les États-Unis que les Chinois, mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur ces sujets-là. Donc, on a un gros rattrapage à faire.
Olivier, un mot sur ce que vient de dire Célia.
J'abonde complètement dans ce que dit Célia, et je pense qu'on va se revoir très rapidement pour avoir un partenariat gagnant-gagnant.
Mais c'est vrai que dans ce que dit Célia, la France est réputée comme ça pour avoir une faiblesse au niveau commercial. Est-ce que c'est un aspect que l'université pourrait justement développer ou pas du tout ?
Alors pas du tout. C'est-à-dire que nous, universitaires, on est là pour produire en fait, on va dire, des innovations de rupture issues de nos laboratoires de recherche. Et un chercheur en fait, ou même du point de vue académique, on n'est pas câblé en fait pour faire du business. Je pense que c'est un métier à part, c'est aussi une formation à part, et justement on s'appuie sur nos partenaires pour nous accompagner et nous guider aussi sur ces formes de business. Donc dans les partenaires, nous avons l'ESSEC qui nous accompagne sur des aspects
bien sûr
de business, mais on est très à l'écoute aussi de partenaires qui sont en lien avec des filières ou des investisseurs ou aussi des incubateurs. Ça, c'est très important pour nous.
Mais ça, c'est tout l'enjeu, en fait,
plutôt
de la politique publique, en fait, comment on coordonne de la partie recherche, donc de la partie Olivier, jusqu'à ma partie, c'est-à-dire l'industrialisation et l'ouverture d'usines dans les territoires qui sont capables d'être compétitives, en fait. Et donc, tout l'enjeu, justement, des politiques publiques sur ces sujets-là, c'est qu'il n'y ait pas de rupture dans la continuité de la recherche jusqu'à l'industrialisation et la commercialisation. Et donc, à chaque fois, ça demande l'alignement et la mise en place d'outils qui sont spécifiques à chaque phase. C'est là où nous, en tout cas, là, on arrive dans des phases. Pourquoi on arrive dans des phases de déploiement à l'échelle et d'industrialisation ? C'est justement parce que les phases en amont de recherche, elles ont bien fonctionné.
Bien sûr.
Et c'est parce que Olivier, il a bien fait son travail, si je dois le formuler comme ça. Et donc, pour pas qu'on perde le travail d'Olivier, de tous les acteurs qui se sont mobilisés sur la recherche et ensuite sur la partie business et qui aujourd'hui arrivent dans des phases de commercialisation et ouvertures d'usines. Il faut qu'on accompagne bien les dernières phases également, parce que sinon, en fait, on perd tout ce qui a été
bien
produit
avant. Oui, je comprends.
Et même en termes d'efficacité de dépenses publiques et de politique publique, c'est pas satisfaisant si à la fin, on se fait racheter nos technologies alors
bien
que
sûr.
C'est nous qui avons pris les risques et qui les avons développés.
Et si on en revient à ce que vous disiez au début, Olivier Romain, quand vous parliez de l'école primaire, ben, dès l'école primaire, il faut inculquer aux jeunes toute cette notion de filière qui doit aller d'un bout à l'autre.
Ben, je pense que ce soit collège, lycée, alors primaire, bon, c'est peut-être un peu prématuré, mais en tout cas, commencer à travailler sur cette culture de l'innovation, à travers des petits projets, des ateliers, mais favoriser en fait une co-construction et de se dire bah tiens ton objet tu peux aussi le tester, voir peut-être faire venir des industriels dans des collèges. Moi je pense que c'est très important aujourd'hui.
Bien sûr.
Et faire visiter
absolument.
Des usines aux jeunes.
Oui, complètement. Et ça c'est voilà.
Oui, de la même façon qu'on va faire visiter un musée, on fait visiter une entreprise. C'est du même ressort.
Mais c'est comme ça qu'on crée des vocations. Et enfin, moi, j'étais pas du tout issue du monde industriel. Je suis tombée, alors, je vais pas dire amoureuse, mais ça a révélé quelque chose en moi le jour où j'ai visité une ligne de production.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Et donc c'était une ligne à l'époque à Toulouse. C'était une ligne d'Airbus. J'avais trouvé ça mais extraordinaire. Et ensuite, j'ai eu la chance aussi de visiter une ligne de Safran sur la production des moteurs d'avions. J'avais trouvé ça aussi pareil, extraordinaire. Et depuis, je me suis passionnée pour ce secteur, aussi bien que j'en fais aujourd'hui ma carrière professionnelle.
Ouais.
Donc voilà, je pense que c'est aussi comme ça qu'on crée des vocations chez les jeunes. Et Olivier, il dit quelque chose de qui est très juste. Hein, c'est je pense qu'il y a un vrai sujet de culture et même pour aller plus loin de mentalité, mais à tous les échelons. Moi, je vois par exemple au niveau de l'administration, et parfois on réfléchit encore avec certains schémas qui
sont issus
d'un ancien ordre mondial en fait, qui est plus l'ordre mondial actuel où c'est plus la concurrence libre ouverte partout dans le monde et donc on rentre dans un monde qui est malheureusement plus agressif. Et sur ça, il faut aussi le comprendre pour adresser les bonnes solutions et pour protéger notre marché, nos acteurs, nos consommateurs, nos travailleurs. Et donc, ça demande des évolutions à tous les étages.
Constamment. Ouais. Olivier Romain.
Justement, alors, Jacqueline, vous m'avez interrogé sur Startez. Ça fait exactement, en fait, la transition avec Startez. Parce que Startez, en fait, c'est quoi? Donc, Startez, en fait, c'est un label du ministère pour pouvoir, en fait, avoir des programmes de formation, d'acculturation en fait à l'innovation. Donc on a été labellisé cette année, le PUI a été labellisé Startez et on organise en fait une masterclass qui est ouverte à tous, hein, c'est gratuit, le 3 et 4 juillet. Donc les cibles, c'est toujours les mêmes, hein, c'est les étudiants, personnel de recherche, personnel aussi administratif, et ça vous avez entièrement raison Célia, c'est qu'aujourd'hui en fait on a besoin de professionnaliser en fait notre administration sur certains aspects, hein, elle est très professionnelle sur métiers, mais il y a
la
encore,
sensibiliser
encore
à ce...
en fait des métiers qui sont en fait à professionnaliser, par exemple les structures d'innovation du point de vue administratif aujourd'hui sont vraiment à professionnaliser. Je termine ma petite parenthèse. Et donc du coup, Startez, cet objectif en fait sur deux jours, c'est vraiment appréhender les fondamentaux de la valorisation, présenter aussi des outils et puis des solutions hein, pour savoir aussi présenter son projet, donc des aspects de pitch. Comment créer un deck, comment pitcher sur un deck devant un jury d'experts. Donc, ce sont en fait des masterclass avec des experts qui viennent, qui sont pas spécialement universitaires. Je vais prendre deux, trois exemples. On a Deep Tech Founder qui va venir. On a un investisseur, en fait, qui a travaillé sur une très belle solution en Amérique, il a revendu et il revient en France pour investir. On a aussi, par exemple, des partenaires type Réseau Entreprendre, Initiative, BPI, qui seront là aussi pour apporter en fait un éclairage sur une partie particulière. Et puis, on a aussi la chance d'avoir Dominique Siama, qui est le directeur de CY École de Design, qui est assez réputé en fait dans le design, qui sera aussi là pour présenter un atelier sur l'innovation par le design.
Très bien. Ah oui, c'est vrai que On en avait parlé au tout début de CY Design et j'avais trouvé ça très intéressant. On en avait parlé avec Alexandre. Et puis à la clé, il y a une récompense, mais si, on pourra en parler dans quelques minutes de cette récompense.
Ou maintenant, si vous voulez, Jacqueline.
Ah bah allez-y, au contraire.
Donc le meilleur projet sera sélectionné pour participer en phase nationale, hein, puisque Startas, oui, c'est aussi un programme national qui aura lieu d'ici la fin de l'année. Et en même temps, nous allons récompenser au titre du PUI lors des Assises de l'innovation à travers le prix de l'innovation en fonction de la catégorie de la personne. Si c'est un étudiant, il y aura le prix de l'innovation étudiant. Si c'est une entreprise, prix de l'innovation entreprise.
Donc le 27 novembre 2025.
Tout à fait, Jacqueline. Et puis vous serez là à mes côtés.
On sera
pour
là
pouvoir
avec
présenter
grand plaisir.
Ce prix de l'innovation.
Merci infiniment, Olivier. Et puis, on marque une nouvelle pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Au fond, qu'importe où je serai demain, il n'est qu'un seul rêve à mes yeux. Tant de destins et tellement de chemins, un seul instant là sous les yeux. Qu'importe si tout s'efface au fond de moi, mais je le sais, tout est écrit au plus profond de l'éther. S'il est un monde où tout s'efface, il est en moi une vérité, tant de rêves où j'entends jouer cette terre. Et j'entends jouer cette terre. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Qu'importe si tout s'efface au fond de moi, mais je le sais, tout est écrit au plus profond de l'éther. S'il est un monde où tout s'efface, il est en moi une vérité, tant de rêves où j'entends jouer cette terre. Et j'entends jouer cette terre. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves. Un peu de nous deux dans cette terre. Un peu de nous deux dans ce rêve à deux. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois.
IDFM Radio, 98 FM.
Si vous nous rejoignez, c'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Et ce matin, focus sur les défis environnementaux au quotidien. Pour en parler, je donne la parole à Olivier Romain, vice-président de CY Transfer, et Célia Agostini, directrice de Cleantech for France. Alors, Célia, vous avez déjà bien échangé avec Olivier Romain. Qu'est-ce qu'il faudrait pour réussir vraiment ce type de partenariat avec CY Transfer? Est-ce qu'il faut un cadre, de la confiance, un appel à projet à commun? Comment le voyez-vous, même si c'est peut-être un peu prématuré d'en parler tout de suite?
Je pense que le grand enjeu d'abord, c'est vraiment celui de comprendre les contraintes du monde industriel pour que la recherche elle soit mieux orientée et soit du coup donc la plus efficace lorsqu'elle vient être appliquée. Et ce rapprochement avec des acteurs comme Olivier et CY Transfer, C'est vraiment de nature à rapprocher les filières, les acteurs, parce que c'est eux qui doivent faire tourner des lignes de production, et à mieux adapter toutes les technologies, les innovations qu'on peut y apporter pour être beaucoup plus efficace, pour être beaucoup plus compétitif, pour, dans le cas des clean tech, encore plus économiser les ressources, que ce soit des ressources énergétiques, que ce soit des ressources naturelles dans les processus de production. Et donc voilà, moi j'y vois vraiment une grande opportunité pour rapprocher ces deux mondes et pour encore une fois s'allier et trouver les meilleures solutions possibles, parce que à l'issue c'est des usines dans les territoires, c'est des emplois dans les territoires, c'est des technologies qui sont souveraines. Et je parle beaucoup de territoire, mais je pense que c'est comme ça aussi qu'on va recréer des dynamiques après une longue phase de désindustrialisation qui a quand même sinistré d'un point de vue économique, mais aussi voilà, social.
Oui, alors il faut parce que l'avantage aussi, c'est l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui il y a cette volonté politique de souveraineté industrielle, alors qu'il y a 40 ans on était parti sur autre chose. Donc là il faut vraiment regagner toute cette confiance.
C'est complètement ça, c'est revenir, j'ai envie de dire, à la thèse de il faut qu'on soit innovateur mais aussi qu'on soit producteur. Et on a abandonné, je pense, ces dernières décennies la partie production en se disant que voilà, on va faire beaucoup plus d'innovation et ce sera très bien. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, je prends le secteur de l'automobile en exemple, c'est on a ramené, alors on s'est ouvert des marchés considérables en Asie, c'est parce que tout le monde voulait avoir des voitures européennes parce que c'était l'excellence automobile. Donc on a créé des chaînes de valeur en Chine par exemple, en Asie du Sud. On leur a donné, on a fait des transferts technologiques. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que non seulement grâce à ça, ils ont été capables de prendre un tournant technologique sur l'électrique et de prendre énormément d'avance, qu'ils ont leur propre chaîne de valeur maintenant. Et que non seulement ils ont leur propre chaîne de valeur, mais ils se sont dit, on va avoir nos propres constructeurs aussi. Et donc, ils ont fait émerger en l'espace de 10-15 ans énormément de constructeurs qui sont aujourd'hui très compétitif, parce que derrière il y a énormément d'argent.
Oui, ils assurent aussi la distribution. Enfin voilà, c'est
complètement. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de mettre en dehors du marché les acteurs européens, les constructeurs automobiles, ce qui explique les mauvais chiffres, notamment des constructeurs allemands aujourd'hui, qui étaient quand même très exposés sur le marché asiatique, et qui sont non seulement en train de nous mettre dehors, mais en plus en train de d'envahir notre marché avec les nouveaux acteurs, les constructeurs chinois qui sont en train de gagner des parts de marché considérables sur l'électrique en Europe. Alors en France, on a commencé à se protéger, je pense, de manière intelligente sur le sujet grâce au bonus écologique qui a été assorti et adossé à un score environnemental, ce qui permet en fait de mieux orienter, on va dire, les achats vers des véhicules européens et notamment français. Et on a vu la différence entre l'ancienne version du bonus écologique et la nouvelle version sur les ventes pour les voitures européennes, et qui va dans le bon sens. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément une solution qui sera pérenne.
Oui.
Et donc tout l'enjeu aujourd'hui aussi pour nous, c'est de faire monter ces technologies-là sur ces marchés. Et on a besoin de mobiliser toutes nos forces sur toute la chaîne de valeur. Oui, et ça commence par la recherche avec des dispositifs et des acteurs comme Olivier.
Non, mais vous l'expliquez très bien. Et je crois que c'est important que des personnes comme vous insistent, certes, sur l'ensemble de la chaîne, c'est parce que chacun a tendance à un petit peu travailler dans son coin, alors qu'en fait il faut vraiment réunir tous les acteurs. Et moi je voudrais revenir sur justement ce, je parlais de ces départements de recherche et développement, et dire que en avoir des partenariats comme ça avec l'université, au fond, on s'offre un service recherche et développement d'excellence, puisque on a toutes ces têtes pensantes qui sont prêtes à se mettre à la portée de ces industriels, et il faut vraiment pas passer à côté de ça.
Ça, c'est vraiment un point fondamental, et sur lequel en France on arrive à produire des technologies aussi grâce à ces systèmes-là. Et maintenant, alors c'est vraiment le deuxième sujet que j'évoquais tout à l'heure, c'est comment on passe de cette phase recherche d'excellence à cette phase application et déploiement à grande échelle, en accompagnant en fait les acteurs qui sont capables de porter ce type de projet. Avec une particularité aujourd'hui, c'est que si je reprends les projets de ciment décarboné ou d'acier décarboné qui sont portés par Ecosem, certains du côté de Dunkerque, pour Gravity sur l'acier décarboné, donc c'est une start-up industrielle qui prévoit d'ouvrir une usine d'acier décarboné à Fos-sur-Mer. Le sujet, c'est qu'on a des petites structures qui sont des start-up industrielles, mais qui sont considérablement capitalistiques parce qu'ils sont dans un monde industriel. Et donc, c'est comment on arrive à mettre en face des dispositifs qui soient aussi bien publics que privés, qui permettent en fait de venir, de dérisquer ce qu'on appelle la technologie, parce qu'il faut la produire, on passe d'une technologie en laboratoire à une technologie dans une grande usine. Donc, faut la massifier. Donc, comment on réduit le risque sur la masse? Et ensuite, comment on arrive à le commercialiser et en étant à des prix compétitifs sur le marché? Et c'est là où on a vraiment, dans ces phases-là, vraiment besoin de beaucoup d'investissements et aussi bien publics que privés, hein, encore une fois, mais qu'il faut qu'on mette en place les bonnes incitations pour les investisseurs à venir sur ces projets, et c'est là où on a besoin du public. Ce n'est pas forcément que de la subvention, ça peut être de la garantie publique qui permet en fait de dérisquer un petit peu les investisseurs sur des projets. Mais c'est vraiment ça maintenant qu'on défend et qu'on porte aussi au niveau européen dans le cadre du Clean Industrial Yield.
Oui, parce que la difficulté, c'est que entre ce que l'on veut réaliser à l'échelle dont vous parlez, Célia, et l'industrie traditionnelle, il y a quand même justement une question de coût et qui revient, c'est le nerf de la guerre. Hein, donc l'industrie traditionnelle aujourd'hui reste quand même peut-être plus commercialement concurrente, enfin acceptable. Toutes ces recherches font que les produits peuvent être plus chers. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça?
Alors, de plusieurs façons. Alors, déjà, faut pas oublier que l'industrie traditionnelle, elle a aussi des défis à relever parce qu'elle doit faire une complète mutation de ses outils productifs pour qu'ils soient moins émetteurs de carbone, pour qu'ils soient moins consommateurs d'énergie, moins consommateurs de ressources naturelles. Donc, eux aussi ont d'énormes investissements à faire. L'avantage, c'est qu'ils sont quand même des reins et financiers bien plus solides, et ils sont quand même bien plus développés. Donc, c'est des défis pour eux, mais différents. Et pour les clean tech, les nouveaux acteurs industriels, eux, ils n'ont pas assez reins financiers parce que c'est des nouveaux acteurs qui entrent sur le marché, qui entrent surtout, en fait, avec des solutions. Et ça, je veux vraiment insister là-dessus. C'est eux, ils n'ont pas de transition à faire, ils n'ont pas de mutation de leur outil productif à faire. Leur outil productif est déjà prêt à l'emploi et dans les objectifs qu'on s'est fixés. Et donc, en fait, il faut vraiment comprendre qu'il y a ces deux jambes. Il y a la jambe, comment on fait monter les industriels, on fait rentrer des nouveaux acteurs sur le marché. Ce qu'ont très bien su faire les Chinois et les Américains, enfin, si je prends les 20 dernières années, on regarde les Chinois, ils ont su faire monter des acteurs qui nous inondent de panneaux solaires, d'éoliennes, maintenant de voitures électriques, de batteries électriques. Les Américains, si je prends les 20 dernières années, ils ont réussi à créer des champions du numérique. Si je prends les 20 dernières années au niveau Europe et français, je n'ai pas connaissance d'un nouveau grand acteur qu'on ait réussi à faire émerger. Et c'est là où le bât blesse pour nous, c'est qu'on s'appuie, je pense, trop sur nos acquis. C'est-à-dire des acteurs industriels qui sont forts et qui sont bien développés et qui ont une dimension internationale. Mais il faut pas oublier qu'on doit faire rentrer aussi des nouveaux acteurs dans cette nouvelle concurrence, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est eux aussi qui vont apporter des solutions aux grands défis et qui vont même apporter des solutions aux défis des grands industriels qui doivent complètement changer leur mode de production.
Célia, l'interview n'est pas terminée. Je propose qu'on marque une pause et puis on se retrouve juste après.
Même sans goûter, même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. Même sans goûter, même sans douter, je dirai que tu m'aimes pas et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois que j'aime être contre toi? Moi je m'en doutais, moi je m'en doutais, moi.
me sens brûlée, du mal à m'exprimer. Je trouve pas les mots, des fois que j'en dis trop. Autant te dire que je m'attends au pire. Est-ce de ma faute, est-ce de la tienne ou celle des autres? Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai trop douté. J'ai perdu la foi en l'amour d'autrefois. Moi j'ai broyé du noir à force de redouter. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi.
IDFM, 98FM.
C'est toujours l'économie en direct et ce matin, focus sur CY Transfer et Cleantech for France avec à mes côtés Olivier Romain et Célia Agostini. Alors Célia, dans ce que vous venez de nous expliquer, quelle serait, on imagine que le Clean Industrial Deal européen a une importance de toute première catégorie.
Oui, complètement. Parce qu'il faut comprendre, je pense qu'on rentre dans un monde où on va être modèle contre modèle. On a d'un côté les États-Unis avec le retour de Donald Trump qui font un retour en arrière avec ce fameux drill, baby drill. Donc vraiment le retour sur les énergies fossiles avec des politiques commerciales qui sont très agressives et dont on voit aujourd'hui, vu le retour en arrière déjà sur les annonces commerciales, augure d'un nouvel ordre mondial, en tout cas qui vient bouleverser le monde tel que nous le connaissions. Et nous, l'enjeu en tant qu'Européens, en tant que Français, c'est de mettre notre propre modèle en face pour pas qu'on se fasse imposer et qu'on subisse les choix qui ne sont pas les nôtres. Et dans ce modèle-là, nous, ce qu'on défend chez Cleantech for France, et je pense que c'est de toute manière la direction qui est prise via le Clean Industrial Deal, c'est un modèle de production où l'Europe est souveraine, la France est souveraine, mais en production, ce qu'on appelle les industries propres, qui permet d'avoir des acteurs industriels qui sont capables de produire du ciment décarboné, de l'acier décarboné, tous les produits essentiels des énergies décarbonées, que ce soit aussi bien du nucléaire que des énergies renouvelables, et qui nous permettent d'être demain compétitifs et de financer aussi notre modèle social, parce que c'est les travailleurs qui financent ce modèle social
ensemble,
en Europe.
Hein,
donc tout est lié. Ouais. Et moi, je tiens vraiment à ce modèle parce qu'il faut vraiment qu'on... Enfin, voilà, je pense que ça fait partie de notre identité et de notre bien-vivre ensemble, tout simplement. Et donc, il faut vraiment qu'on le défende et qu'on en prenne soin et qu'on trouve des nouvelles ressources pour le financer. Et donc, pour moi, l'industrie est une manière de pérenniser toutes nos valeurs. L'autre point sur ça, c'est comment on le fait. C'est, je pense, déjà, on est dans une opportunité historique parce que le monde est en train de se bouleverser. Donc, il faut qu'on en tire notre avantage.
Il faut vraiment prendre le tournant.
Exactement. Avec les États-Unis, où on voit plein de talents fuir les États-Unis, notamment des chercheurs, parce qu'ils sont en train de couper tout simplement tous les budgets. Je pense que nous, c'est déjà un moment où on doit envoyer un message fort au reste du monde, qui est tout simplement choisissez l'Europe. Choisissez l'Europe pour produire, choisissez l'Europe pour innover, choisissez l'Europe pour venir vivre et exprimer votre talent. Et sur ça, on voit déjà émerger plusieurs initiatives, que ce soit nationales ou européennes, qui permettent de mieux accueillir ces chercheurs en Europe.
Et donc, je crois même, pardon, Célia de vous couper, je crois même que la région, Valérie Pécresse a mis en place des aides pour permettre aux chercheurs de revenir en France. Donc, il y a une vraie volonté là.
Complètement, et ça c'est très positif. Maintenant, il faut faire attention à l'empilement des aides et il faut que tout ça soit bien coordonné. Mais en tout cas, c'est le message qu'on doit envoyer au monde, c'est choisissez l'Europe. Et je pense qu'il y a un deuxième message qu'on doit porter, mais qu'on doit porter envers nous-mêmes, c'est choisissons nous-mêmes l'Europe. Parce que c'est encore 300 milliards d'épargne européenne qui est investi en dehors du monde, souvent dans des fonds américains qui investissent en Europe et qui rachètent nos propres entreprises.
Ouais.
Donc en fait, on est en train de donner de l'argent aux fonds américains pour qu'ils rachètent nos propres entreprises. Nous, je pense que dans les défis qu'on a, j'ai parlé tout à l'heure de nouveaux acteurs industriels qui sont en fait des start-up industrielles, mais sur des produits hautement capitalistiques. Par exemple, je reprends l'exemple de Gravity. Gravity qui fait son projet d'acier décarboné à Fos-sur-Mer, c'est un projet à plus de 2 milliards d'euros. Donc on a besoin de chaque euro européen, français, de notre épargne, pour les investir dans nos propres projets, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on va construire et qu'on va bâtir notre avenir aussi demain et être à la fois compétitif, recréer des emplois dans les territoires. Et donc, tout est lié, encore une fois. Et donc, il faut vraiment que nous choisissions l'Europe nous-mêmes. Et c'est vraiment, choisissez l'Europe au reste du monde et à nous-mêmes, choisissons l'Europe. Parce que c'est comme ça que je pense qu'on va pouvoir remonter la pente.
Oui, bah comme Olivier, vous parlez très très bien de votre de ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, Célia. Est-ce que vous sentez qu'autour de vous ce discours est porteur?
Complètement, je pense que c'est en train de se manifester à plusieurs étages, en tout cas dans les discours politiques. Alors, il y a eu le Clean Industrial Deal, il y a cette stratégie dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le passage à l'échelle de nos start-up qui a été lancé au niveau européen. Et donc ça, tout ça est très positif. Au niveau français, il y a des initiatives comme Choose Friends. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un dynamisme politique autour de ces sujets-là, il y a une prise de conscience. Maintenant, il faut que ça se traduise dans tout le cadre réglementaire, ce qui va mettre du temps. Et ce qui va aussi demander beaucoup d'efforts de notre part pour expliquer comment on peut y arriver, quels paramètres il faut faire bouger. Moi, il y a quelque chose dans lequel je crois beaucoup, c'est la préférence européenne. La préférence européenne qui consiste pas forcément à dire on prend que des acteurs européens, c'est pas ça. Qui consiste à dire on favorise le made in Europe, en fait. Et le made in France, le made in Europe. Et donc ça commence déjà dans notre propre commande publique, qu'on se mette à acheter en priorité des produits qui sont produits en Europe, tout simplement.
C'est ce que réclament d'ailleurs les industriels. Hein,
ils ont bien raison, c'est ce qu'on réclame aussi. Ouais. Et nous, on le réclame d'autant plus parce qu'on ouvre des nouveaux marchés avec des acteurs, comme j'ai dit, qui sont dans des phases de montée industrielle, donc ils ne sont pas encore arrivés à maturité. Et donc, il faut leur donner des marchés pour qu'ils puissent aussi continuer à se développer et à être le plus compétitif le plus vite possible, en fait. Donc la préférence européenne est notamment ce qu'on appelle les critères de contenus locaux, c'est-à-dire que dans la production, on va dire qu'il faut que, par exemple, 50% soit issu de la production d'une production européenne. Ça oblige, en fait, même les acteurs étrangers à venir ouvrir des usines chez nous pouvoir rentrer dans notre marché. Et ça, c'est une protection intelligente de notre marché. Parce que c'est pas seulement mettre des droits de douane. Je pense que c'est totalement inopérant et en fait ça coûte plus cher à tout le monde. Hein,
c'est ça, ouais.
Que ça veut dire à la fin.
C'est contre-productif.
Hein. Oui, complètement. De toute façon, on est en train d'en avoir la démonstration complète. Mais c'est comme ça qu'on va pouvoir protéger notre marché, protéger notre acteur et refaire revenir des usines en Europe pour pouvoir aussi, créer des emplois dans tous les pays européens et à commencer par la France, en tout cas pour ce qu'on porte avec CleanTech for France.
Merci infiniment, Célia, pour cet éclairage sur l'innovation, sur les dynamiques de l'innovation durable et puis sur cette volonté. On sent, vous êtes complètement investi par ce sujet et je ne doute pas que vous allez pouvoir Olivier parlait de bâton de pèlerin, mais voilà, je crois que votre bâton, vous le menez à bien en ce moment. Célia, avant de nous quitter, je crois que vous avez une actualité à nous annoncer.
Oui, complètement. Alors, c'est une actualité qui est un peu plus locale, mais ça tombe bien, on est sur la radio locale. C'est le lancement d'un mouvement citoyen de débat et d'action pour Montmorency qui s'appelle Nouvelle Ère, que nous avons lancé avec de nombreux Montmorencéens. Il se résume en deux mots, débattre et agir. Il a pour but d'abord, de rassembler les Montmorencéens qui ont envie d'agir pour leur ville, parce qu'il y a des choses, des défis qui sont considérables à relever, et donc il faut qu'on se mobilise pour ça. Et le deuxième sujet aussi, le but de ce mouvement, c'est sans doute dans un monde de désinformation, d'invectives, de fake news, de remettre au contraire de l'expertise, de la fiabilité dans les informations et surtout du respect dans les convictions de chacun. Et donc on organise des débats citoyens sur des thématiques locales avec à chaque fois l'intervention d'un expert reconnu dans ce sujet. Et le premier s'est tenu jeudi dernier. Il avait pour thème la sécurité locale. Pourquoi ? Parce que la sécurité, c'est le socle de tout projet. C'est le socle de l'attractivité d'une ville, de nouveaux habitants, d'entreprises. C'est le socle aussi de la réputation de la ville à l'extérieur. Mmh. C'est le socle du bien-vivre et de la tranquillité publique. Et donc, on a accueilli Éric Delbecq, qui est un des éminents experts en sécurité intérieure en France. À qui on avait notamment confié la sûreté de Charlie Hebdo après les attentats. Ah oui. Et donc on a pu poser un diagnostic sécuritaire territorial, notamment sur le nombre de cambriolages qui sont en fait en constante augmentation à Montmorency. Et c'était intéressant de comparer avec d'autres faits, parce que ce qu'on observe, par exemple, sur les violences sexuelles, sur les dégradations volontaires, c'est que ça augmente dans toutes les villes aux alentours, oui, et que c'est des augmentations qui sont dans des tendances nationales. Mais qu'en revanche, lorsqu'on regarde les cambriolages, donc on a pris évidemment les chiffres du ministère de l'Intérieur, on regarde avant le Covid et après le Covid, parce qu'entre deux, il s'est passé quelque chose qui s'appelle le Covid, et où on était un petit peu tous à la maison. Donc ça n'a pas de sens de faire une, de pas séparer les deux périodes. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a des augmentations qui sont quand même importantes à Montmorency, plus 23% entre 2016 et 2019, plus 11% entre 2022 et aujourd'hui, qui sont en fait à contre-courant des tendances nationales et des tendances locales des autres villes, parce que dans les villes aux alentours comme Soisy, comme Deuil-la-Barre, comme Enghien-les-Bains, ça baisse considérablement. Donc ça veut dire qu'on a un problème identifié sur le sujet à Montmorency. On n'a pas fait que ça, on a fait aussi, on a anticipé les nouveaux défis, et notamment un qui me tient particulièrement à cœur, c'est le harcèlement sur les réseaux sociaux, notamment des jeunes, parce qu'il y a des choses qui commencent dans le cadre de l'enceinte scolaire et qui se prolongent à l'extérieur de l'enceinte scolaire, et à un moment je pense qu'il faut qu'on aide les parents et qu'on fasse de la prévention en expliquant aux parents que lorsque leur enfant il rentre de l'école et qu'on pense qu'il est tranquille dans sa chambre tout seul, en fait, il est sur son portable, et bien, il n'est pas en sécurité. Voilà. Parce qu'il y a les réseaux sociaux et il peut être sujet à soit des contenus illicites, soit pire, du harcèlement. Et donc, je pense qu'il faut qu'on les aide, surtout dans un moment où il y a quand même beaucoup de pression sociale sur ce sujet, parce que tous les enfants ont des portables, tout le monde a des réseaux sociaux, et donc c'est peut être difficile pour des parents à un moment de réduire ça. Donc, il faut qu'on leur donne des solutions sur ça, et dans le pire des cas, lorsqu'il y a du harcèlement qui est avéré, qu'on les aide à reprendre le contrôle sur ces sujets-là. Donc ça, c'est les sujets qu'on a invoqués. Et on a aussi proposé des solutions. La première solution, c'est évidemment, alors, j'ai parlé des cambriolages, donc ça sera un plan anti-cambriolage, parce qu'il faut, je pense, mettre l'accent sur ce sujet au niveau de Montmorency, parce qu'on a identifié ça comme une spécificité à Montmorency. Mais c'est également une feuille de route sécuritaire où on expose très clairement les orientations et les priorités sécuritaires qui sont données à notre police municipale, et ça permet à la fois d'être en adéquation avec les priorités sécuritaires des Montmorencéens qui nous sont remontées, mais ça permet aussi de rendre compte. Et je pense qu'il faut qu'on rende compte aujourd'hui aux personnes, aux citoyens, les décisions publiques qui sont prises, pourquoi on a fait ces choix, et c'est un sujet tout simplement de responsabilité en fait. Et donc cette feuille de route sécuritaire, elle permettra aussi d'exposer très clairement les priorités de la sécurité. Pourquoi ? Parce que la première chose, ça permet de faire remonter des signaux faibles de la population. Donc c'est comment on recrée ce lien de confiance avec les forces de l'ordre. Mais ça permet aussi de faire descendre des informations auprès de la population. C'est-à-dire que moi j'entends beaucoup de gens autour de moi qui me disent la police municipale, ils servent à rien, ils mettent que des PV. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est pas rendre hommage à ces agents qui prennent des risques, qui sont sur la voie publique,
qui font
leur
travail,
et qui sont là pour nous protéger. Et donc ça, je pense qu'on peut redonner aussi cette confiance entre les citoyens et les forces de l'ordre. Et enfin, je pense que sur le sujet du harcèlement scolaire, enfin en tout cas sur les réseaux sociaux, on peut tenir nous spécifiquement en tant qu'élus une permanence sécurité. Sur ces cas-là spécifiques, et en tout cas sur tous les cas de manière générale, qui font intervenir plusieurs services. Là, par exemple, je prends le cas de l'harcèlement scolaire. En fait, vous avez l'école, vous avez la police. Parfois, voilà, je pense qu'il y a des améliorations dans le dialogue entre ces deux institutions, mais c'est pas toujours optimal. Et donc, je pense que c'est là aussi le rôle du politique de venir faciliter et de faire de la coordination, de pas se prendre la place de l'éducation nationale et de pas prendre la place de la police, mais de faire en sorte qu'il y ait une porte d'entrée déjà unique pour les parents et que ensuite on fasse le lien avec les bons services, donc avec la police nationale lorsqu'il faut porter plainte, avec le DAZN au niveau de l'éducation nationale pour signaler des cas et qu'on regarde très concrètement ce qui se passe et s'il faut prendre des décisions de changement d'établissement de personnes harcèlent d'autres personnes, eh bien il faut les suivre. Mais en tout cas, je pense qu'il faut remettre un petit peu de pression politique sur ces sujets-là pour faire avancer les choses et que les parents ne soient pas démunis et que derrière, bah, lorsqu'on est démunis, bah, on peut avoir des actes compliqués et vouloir se faire justice soi-même, et ce qu'il faut absolument éviter.
Bien sûr, oui. Bah, écoutez, bravo pour ce programme. Votre prochaine réunion aura lieu quand ? Elle est déjà définie ou pas encore ?
Alors, pas encore. Ça va arriver très vite. On va vite le préciser. D'abord, ce qui compte, parce qu'on fait les réunions, mais ce qui compte pour moi aussi, c'est de faire
c'est
cette restitution.
Derrière,
voilà.
Oui.
Et de rendre, parce que j'ai interrogé beaucoup de Montmorencéens sur le sujet. Oui. On a réuni beaucoup de Montmorencéens ce soir-là. On était plus d'une soixantaine pour venir débattre sur un sujet local. Donc ça montre aussi l'intérêt et l'envie des Montmorencéens, tout simplement, de porter et de contribuer à l'avenir de leur ville. On va faire cette restitution et ensuite on annoncera le second débat. Mais en tout cas, enfin moi, ça s'inscrit dans une vraie volonté aussi personnelle. Pourquoi j'ai monté ce projet avec d'autres Montmorencéens. D'abord, parce que mon grand-père a été policier, mon père a été policier, ma sœur est gendarme, ma petite sœur s'apprête peut-être à rejoindre la police. Moi-même, je suis réserviste. Donc l'intérêt général, c'est une vraie affaire
aussi,
de famille
chez
les Agostini. La seconde aussi, c'est parce que j'ai envie de tout simplement de rendre ce qu'on m'a donné. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de honte à le dire, mais j'ai été je suis très reconnaissante de ça, c'est que j'ai été boursière toute ma scolarité. J'ai eu la chance de faire l'école publique, de la maternelle jusqu'au lycée, jusqu'à l'université, et ensuite j'ai eu la chance de me faire financer une grande école, alors qu'il y avait très peu de bourses au niveau français. Et voilà, moi je pense que j'ai eu la chance d'avoir des professeurs extraordinaires qui m'ont donné l'envie d'apprendre, qui m'ont éveillé ma curiosité et qui m'ont surtout enseigné d'avoir l'esprit critique. J'ai envie de le rendre aussi à la collectivité, et s'engager pour ma ville, c'est une manière de le faire.
Très bien, bah écoutez, bravo, c'est tout à votre honneur. Merci infiniment, Célia. L'économie en direct se termine. Avant de nous quitter, comme le veut la tradition, un mot de conclusion. Donc, Célia, je vous donne la parole pour ce mot de conclusion sur notre émission de ce matin.
Bien, merci Jacqueline de toujours mettre en avant des sujets qui sont essentiels à dimension locale, française et internationale. Et je pense qu'aujourd'hui, on a bien exploré toutes les synergies qu'on pouvait créer entre le monde de la recherche et le monde de l'industrie. Et je me réjouis de pouvoir avancer sur ces sujets avec Olivier. Merci.
Et merci à vous. Merci d'avoir été au rendez-vous, Célia. Merci. Olivier Romain, donc un mot de conclusion aussi, le mot de la fin est pour vous.
Comme Célia, merci Jacqueline pour vraiment votre animation territoriale à travers la radio, et je me réjouis de pouvoir poursuivre ces échanges passionnants de ce matin avec Célia, et je donne rendez-vous à tous nos auditeurs le 3 et le 4 juillet pour notre masterclass de Startez sur l'innovation, qui est ouverte à toutes et à tous, et je vous transférerai le lien pour
volontiers, et je pourrais le mettre, nous le relayerons aussi sur IDFM Radio. Merci en tout cas de ces échanges croisés entre les mondes académiques et entrepreneurial, qui, on l'a compris, est plus que jamais nécessaire. Merci à vous. Merci à tous nos auditrices et auditeurs de nous avoir suivis. Merci Nicolas pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son intégralité en replay sur le site de la radio idfm98.fr. Et moi, je vous retrouve mardi avec de nouveaux invités. D'ici là, belle journée et bon week-end.